chacun, aux courageux qui sont venus, parce qu'il semble que nous sommes quand même nettement moins nombreux que le week-end dernier pour le centenaire. Je dois l'enlever, oui, sans doute, oui. Parfois il gêne et parfois on oublie ces circonstances où on peut l'enlever, mais on commence à avoir de la buée sur les verres parce qu'il fait un peu plus frais. Ce matin, je me propose avec vous de passer en revue un chapitre de l'Ecclésiaste. On retient souvent de l'Ecclésiaste. Je dois baisser quelque chose. Voilà. Que l'Ecclésiaste, tout est vanité, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et des choses comme ça. Et ce sont en fait beaucoup, ce sont les grandes lignes que l'on conserve, et on ne cherche pas toujours plus avant ce qu'il a dit, parce que peut-être c'est une suite de pensées sur sa vie, et puis on croit connaître. Et on se repose là-dessus. C'est un peu comme les proverbes, n'est-ce pas ? Les proverbes contiennent tant de recommandations utiles et pratiques pour notre vie, même si c'est l'Ancien Testament, beaucoup de choses sont restées les mêmes dans le cadre des relations humaines, et nous avons beaucoup à apprendre de pratiques sur notre marche, au milieu de nos semblables et aussi, sans doute, dans l'Église. Alors, j'ai récemment touché un ou deux points de ce passage d'Ecclésiaste 7, puisque c'est celui-là, qu'il me semblait utile d'examiner ensemble ce matin. Je regrette que les circonstances de la situation Covid-19, avec le nouveau virus Cro-Magnon ou quelque chose comme ça, Non, mais vous aurez compris que je vous déride un peu, malgré les masques. Je regrette que les circonstances soient aussi tendues aujourd'hui, actuellement. Moi, c'est le 4 jours que je ne suis pas sorti, parce que même malgré le virus, on a quand même aussi des rhumes qui nous accablent, et mon épouse a aussi recueilli sans doute quelques microbes et est restée à la maison ce matin. L'Ecclésiaste ne paraît pas toujours au premier abord particulièrement encourageant. Et souvent, on a envie d'entendre aujourd'hui des choses encourageantes, quelque chose qui va nous booster, comme la troisième dose qu'on va non pas nous imposer, mais vivement nous encourager. Mais on entend déjà que le nouveau virus serait résistant aux vaccins existants. Et donc les labos sont en train de préparer des nouveaux vaccins, mais je doute que la troisième dose soit déjà le nouveau vaccin. Donc il y a quand même un certain nombre d'incohérences qui sont gênantes. Mais on se demande aussi comment faire autrement. La sagesse est un concept utilisé pour qualifier le comportement d'un individu souvent conforme à une éthique qui allie la conscience de soi et des autres, la tempérance, la prudence, la sincérité, le discernement et la justice, s'appuyant sur un savoir raisonné. C'est selon Wikipédia, selon ce qu'on dit généralement. C'est bien dit, mais c'est une description idéale dans un monde parfait. La sagesse est aussi considérée comme une philosophie, la conduite du sage dans sa vie, dans ce monde. C'est le petit Robert qui dit cela. J'ai aussi trouvé, pas celui que nous connaissons, non, j'ai aussi trouvé l'approche suivante, la connaissance du vrai et du bien, fondée sur la raison et sur l'expérience. Et même si nous ne sommes pas là face à des approches bibliques, reconnaissons que la sagesse envisagée sous cet angle s'approche en partie de ce que nous dit l'Ecclésiaste, qui qui a examiné la vie, éprouvé bien des choses et en a tiré des conclusions utiles. Mais heureusement, bien plus encore, parce qu'il a quand même un éclairage supplémentaire, même si cet éclairage n'est pas complet. En effet, on peut dire que le but du livre de l'Ecclésiaste est d'épargner aux générations futures l'amertume de découvrir par l'expérience que sans Dieu, la vie n'a aucun sens. Second 21. Salomon, qui fait en toute logique, tard dans son existence, le bilan de sa vie, dont une grande partie a été vécue sans Dieu. On s'accorde d'ailleurs pour dire que le verset clé du livre est le verset 13 du chapitre 12. Je cite « Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. » J'ai vu il y a 2 jours apparaître sur mon écran d'ordinateur une information qui m'a paru plutôt comme une publicité déguisée, mais elle titrait « Elio Di Rupo perd tout ». Étrange. Je n'ai pas été voir plus loin parce que je suspectais une publicité pour de l'investissement sécurisé. Mais sait-on jamais ? Il y a eu des dizaines de millions d'arnaques en Bitcoin en Belgique via des sites qui sont aujourd'hui très professionnels. Ils sont impeccables. Et même, j'ai entendu l'interview d'un employé de la Banque nationale de Belgique qui est retraité aujourd'hui et qui a perdu en quelques heures 7000 euros. On peut se demander comment un homme avisé comme ça tombe dans ce piège. Salomon a recherché le bonheur comme une expérimentation. Il y a découvert que la vie sans Dieu est une longue et inutile recherche de la joie, d'un sens à la vie et d'un épanouissement, et qu'il n'est pas en notre pouvoir d'y parvenir parce que nous sommes en mode toujours plus, et que des circonstances que nous ne maîtrisons pas peuvent tout nous arracher. Comme à M. Di Rupo, peut-être. Sans Dieu, le cœur de l'homme est vide, rien ne peut le combler. J'essaye parfois d'imaginer ma vie sans Dieu, pour tenter de comprendre comment on vit sans une relation avec Dieu. Mais c'est impossible, parce que l'Esprit de Dieu habite dans le croyant, né de nouveau, sauvé par grâce. C'est merveilleux, c'est rassurant, Dieu nous tient dans sa main. Et ce vide, Dieu l'a rempli, mais l'Ecclésiaste nous fait comprendre, même pour notre temps, la vacuité de l'existence privée de la relation avec notre Créateur en Jésus-Christ, son Fils. La lecture du livre est à recommander aux jeunes en particulier, non pas pour qu'ils découvrent une vie désespérante, mais plutôt qu'il n'y a aucun avantage à construire sa vie sans Dieu. Nous avons besoin d'une sagesse qui est supérieure à celle que le monde peut offrir avec toute sa connaissance. Je ne jette pas l'opprobre sur la connaissance humaine, elle est très riche et souvent bien utile. Mais celles que nous retrouvons dans nos définitions de tout à l'heure sont dans un monde idéal qui n'est pas le monde perdu aujourd'hui, depuis la chute. La sagesse de Dieu nous épargnera l'amertume qui peut accompagner l'expérience humaine et nous donnera une espérance qui dépasse cette vie. Évidemment, nous pouvons toujours nous croire plus malins, plus intelligents. Et ce que nous pouvons en dire aujourd'hui ne sera peut-être plus ce que nous dirions dans 10, 20 ou 30 ans. Si j'avais su. Trois petits points. Ne nous croyons pas trop forts non plus. En 2 Chroniques, au chapitre 1er, les versets 7 à 12, Salomon, lorsqu'il est devenu roi, a demandé la sagesse à Dieu. Et pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Et Salomon répondit à Dieu « Tu as traité avec une grande bonté mon père David et tu m'as établi roi à sa place. Maintenant, éternel Dieu, tiens la promesse que tu as faite à mon père David. Puisque tu m'as établi roi sur un peuple aussi nombreux que la poussière de la terre, accorde-moi donc de la sagesse et la connaissance, afin que je sache diriger ce peuple. En effet, qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ? Et Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est cela qui est dans ton cœur, puisque tu ne réclames ni les richesses, ni des biens, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, mais que tu demandes pour toi de la sagesse et de la connaissance afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai établi roi, la sagesse et la connaissance te sont accordées. Je te donnerai en plus de cela des richesses, des biens et une gloire telle qu'aucun roi n'en a jamais eu avant toi et n'en aura après toi. » Devenu homme, le plus sage du monde, 2 Chroniques 9, 22, 23, on dit du roi Salomon qu'il dépassa tous les rois de la terre par ses richesses et sa sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à le voir pour bénéficier de la sagesse que Dieu lui avait donnée. Toutefois, lui-même n'a pas réussi à en tirer profit. Et il s'est trouvé sur une pente descendante. Ce ne sera qu'à la fin de sa vie qu'il retrouvera l'humilité dans la repentance. Lisons notre chapitre 7, vous l'aurez pris entre-temps. La première section, on peut l'appeler « Mépriser le monde et ses joies trompeuses ». Verset 1er. Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Je vous disais que ce n'était peut-être pas très encourageant dans un premier temps. Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme, et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. Mieux vaut le chagrin que le rire, car malgré un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil et celui des hommes stupides dans la maison de joie. Mieux vont entendre la menace du sage que d'écouter le chant des hommes stupides. En effet, le rire des hommes stupides ressemble au crépitement des épines sous la marmite. Cela aussi, c'est de la fumée. L'oppression peut rendre fou le sage et les cadeaux provoquer la perte du cœur. Un des titres sur le site du journal Le Soir disait hier ou avant-hier, ceci suite au Codeco de vendredi, les fêtes de fin d'année sont sauvées, virgule, pas si sûr, trois petits points. Nous dirions plutôt, nous, ici, rassemblés, je pense, allons-nous pouvoir nous réunir à Noël, à l'Église, et proclamer l'Évangile en présentiel ? Nous ne voulons aussi nous réjouir ensemble, en famille, peut-être avec quelques amis, mais nous pensons d'abord à cette liberté qui nous permet de louer le Seigneur et de nous rassembler. Enfin, je l'espère pour la majorité d'entre nous. L'Ecclésiaste invite ses lecteurs à se contenter des joies que Dieu lui procure, sans jamais tomber dans la frivolité. Nous sommes appelés à ne pas fuir les réflexions sérieuses sur la vie. Au chapitre 6, la première partie du verset 12, il pose cette question : qui sait en effet ce qui est bon pour l'homme dans la vie ? Il répond par des recommandations fondées sur son expérience. Au verset 1er, l'original joue sur les mots « kem » qui est le nom et « kemé » qui est parfum. Même racine, un jeu de mots. Nous pourrions dire alors en français « mieux vaut être en bonne odeur que jouir d'une bonne odeur ». Ne poussons pas trop loin à l'exemple parce que cela ne veut pas dire qu'il faut sentir mauvais, n'est-ce pas ? On est sans doute davantage porté à réfléchir au sens de la vie face à la mort, surtout d'un proche, que face à un nouveau-né. Et c'est juste, cette vision est juste. Parce que quand on a un nouveau-né devant les yeux, c'est l'émerveillement, c'est, il n'est pas toujours très beau dans un premier temps. Parfois si, mais et on pense plutôt à la joie des parents et de l'entourage qui est réjoui, que tout se soit bien passé, que l'enfant est bien, etc. Étonnant cette inversion des priorités entre la mort et la naissance, et dans l'Antiquité, les Thraces faisaient cette inversion en fêtant la mort plus que la naissance. L'enfant qui naît va seulement connaître les joies de la vie, mais aussi très souvent les difficultés, les souffrances, la maladie. Certains aujourd'hui ne veulent plus avoir d'enfants à cause du réchauffement climatique. Bon. Regardons au-delà de notre pays, mais regardons plutôt, par exemple, du côté de l'Afghanistan. On y vend des enfants pour 500 euros. Des filles, petites filles, pour être mariées à des hommes plus âgés. Il y a des gens plus riches aussi là-bas. Et des familles pauvres ont faim. Ce pays vivait sous perfusion humanitaire. Aujourd'hui, les robinets se sont fermés en grande partie. J'ai vu ce reportage de la journaliste française Liseron Boudoul et le présentateur du JT disait que c'était insoutenable. Et puis on ferme le sujet et on passe à autre chose. Une usine fermée, enfin, vous savez ça comme moi. Mais des considérations spirituelles doivent nous rappeler ce que l'apôtre Paul déclare en Philippiens 1, versets 21 à 25. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et je demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. L'apôtre Paul n'est à proprement parler pas attiré par la mort elle-même, mais il considère l'avantage d'être avec Christ. Mais de toute manière, la maison de deuil fait réfléchir sur la finalité de toute chose ici-bas. Et cela est salutaire, et donc l'Ecclésiaste dit vrai. Le verset 2 nous pousse à une réflexion sérieuse sur l'issue de toute chose. Et le verset 3 nous confronte aux apparences trompeuses et met en avant ce paradoxe d'un cœur content, je dirais plutôt en paix, alors que le visage exprime la tristesse des circonstances. Le verset 4 reprend sur le registre de la réflexion indispensable à la vie et l'accent sur cet échappatoire que peut représenter la joie de la fête. On a parlé beaucoup des guindailles estudiantines ces derniers temps, et on a arrêté parce qu'il y a eu des débordements, parfois même ça coûte la vie à un étudiant, mais souvent on dépasse les bornes dans ces circonstances. Et viser ici sans aucun doute la fête exutoire, comme on l'exprime souvent aujourd'hui, pour lâcher la vapeur et ne plus trop réfléchir. Et c'est sans doute là que se situe le problème. On ne réfléchit plus, on se lâche et on tombe dans le péché. Ce sont les dangers de la frivolité dont il est question. Une proximité avec le péché. Cela nous pousse aussi au contrôle de nous-mêmes et à la modération, pas à la tristesse. Le cœur des sages va consoler ceux qui sont dans la tristesse et il partage avec eux. Verset 5, sur la réprimande du sage qui fait du bien à l'âme. Le fils sage, Proverbe 13:1, dit est le produit des corrections de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Dans une école primaire de la région de Bruxelles, une situation très difficile est vécue avec 2-3 élèves de dernière année. Et ça empoisonne littéralement la vie tant des autres élèves que des enseignants. La situation devient vraiment pesante et presque impossible à vivre. Le groupe d'élèves est convoqué à la direction et c'est en rigolant, avec des attitudes très désinvoltes, qu'ils se rendent à cette convocation. Une réprimande qui visiblement portera peu de fruits. Les insensés rient et se moquent. Verset 6 en hébreu, il y a ici encore un jeu de mots, cir pour chaudière et sirim pour épine. Le psaume 58:10 dit ceci, « Avant que vos chaudières aient senti le feu des épines, vertes ou enflammées, le tourbillon les emportera. » Un bruit de crépitement avec de la fumée et peu de chaleur, un feu de paille, disons-nous en français, sans lendemain, tel est le rire de l'insensé. Il est parfois bien bon d'associer cela dans des situations concrètes de la vie. Et le verset 7 pourrait avoir deux sens, là où il est question de l'oppression sur le sage qui engendre elle peut engendrer la panique, l'angoisse, et génère des actions inconsidérées dans ces circonstances. Soit que l'oppression qu'il exerce lui-même et cette griserie qu'exercerait sur lui le pouvoir, s'il en a, et a ainsi raison de sa sagesse. On serait bien étonné de voir dans quel milieu même on trouve ce genre de comportement. Quoi qu'il en soit, ce qui suit nous ferait pencher vers cette dernière interprétation, puisqu'il est question de corruption, très clairement. La corruption est très répandue en Belgique. Une interview récente du juge Claes, que je connais, juge financier à Bruxelles, dit du milieu politique en Belgique qu'il est très corrompu. Ce n'est pas qu'en RDC, n'est-ce pas? Et dans le milieu du football aussi, vous avez sans doute entendu parler qu'il était question du premier repenti dans le milieu du football, et peut-être que des têtes encore vont tomber suite à de nombreuses révélations. C'est dans le cœur que cela se joue. Au plus profond de l'être, nous dit le texte. Pratiquez la patience et regardez à Dieu en toutes choses. À partir du verset 8, nous lisons. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit arrogant. Ne t'irrite pas trop, vite, intérieurement, car l'irritation est le propre des hommes stupides. Ne dis pas comment se fait-il que les jours passés aient été meilleurs que ceux-ci, car ce n'est pas la sagesse qui te pousse à demander cela. La sagesse a autant de valeur qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, et remarquez, d'un côté le soleil, la lumière, et puis l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. L'avantage de la connaissance, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde ce que Dieu a fait. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé ? Le jour du bonheur, sois heureux, et le jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne puisse absolument pas découvrir ce qui se passera après lui. C'est un peu comme avec le timing du retour du Seigneur, n'est-ce pas ? Il ne nous est pas donné de le savoir, et Jésus lui-même ne l'a pas dit à ses disciples. Et nous ne sommes pas conscients de ce qui va nous arriver demain. D'où l'intérêt pour certains, pour les prometteurs de beaux jours, diseuses de bonnes aventures, et les voyants auxquels nous ne devons pas et nous ne pouvons pas nous adresser. Le verset 8, pourvu que cela se termine, aurait-on envie de dire. En effet, une chose qui est difficile au départ peut se terminer dans le contentement. Mais pour une épreuve, le Seigneur peut révéler son dessein plus tard avec des effets salutaires. Cela reste difficile et nécessite de la persévérance. Soyons patients avant de juger avec arrogance l'issue d'une chose. Le verset 9 poursuit d'ailleurs sur la même voie en conseillant de ne pas céder à l'irritation qui procède souvent de l'orgueil. On pense souvent, moi je ferai mieux et je ferai autrement, et donc je suis irrité de ce que je vois devant mes yeux. Recommande ton sort à l'Éternel, psaume 37,5. Mets ta confiance en lui et il agira. C'est une autre réaction, bien plus spirituelle, et reconnaissons que nous sommes aussi faillibles à cela. Dans ce domaine. Le verset 10 dit « Je me suis déjà exprimé sur ce verset dans le cadre du centenaire, mais retenons aujourd'hui que chaque époque a ses lumières et ses ombres. » Horace disait que ceux qui sont toujours à louer le temps passé sont souvent d'humeur sombre. Dieu nous demande de vivre le présent avec son aide et de regarder en avant vers les perspectives qu'il prépare pour son Église. Cela ne nous empêche pas de nous réjouir de bonnes choses que nous avons vécues dans le passé. Wout van Weghaarden, lors de notre pastoral, a répété plusieurs fois ceci. Le passé, c'est le passé, et Dieu l'a pardonné. Ça, c'est pour le ruminement des choses difficiles aussi. Le verset 11, la sagesse est souvent comparée à des métaux précieux, comme en Proverbe 2, 4. Il faut creuser et creuser pour les trouver. Et Proverbe 3, 18 dit, compare la sagesse à ceci, je lis, « Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Qui la tient ferme est rendu bienheureux. » Si l'héritage met à l'abri des privations, encore faut-il qu'il soit consistant. La sagesse met à l'abri du mécontentement. Elle fait vivre ceux qui la possèdent. Et le verset 13 montre le pouvoir limité de l'homme et des limites de sa sagesse face à l'œuvre souveraine de Dieu. Et il pourrait bien s'agir ici d'une référence à la malédiction de la création après la chute. Malédiction que Dieu seul a le pouvoir de lever et qu'il va lever à la fin de toute chose. Qui pourra redresser ce qui a été courbé ? Et puis vient ce magnifique verset 14, qui invite à être, allez, c'est plus positif, réjouissons-nous, à être heureux au jour du bonheur. Et ce n'est finalement pas si évident que cela, parce que nous sommes souvent tellement occupés à différentes choses et pris par tant de choses, que nous passons parfois à côté de moments de bonheur que Dieu nous a donnés. Ce n'est pas si simple. Il est plein de réalisme et de sagesse. Sois heureux au jour du bonheur. Saisis le moment, en quelque sorte, ne le gâche pas, parce que d'autres moments, d'autres temps, seront plus difficiles. Cela fait réfléchir, n'est-ce pas ? Rien à voir avec le carpe diem, cueillir le jour, vivre sans réfléchir, mais bien un bonheur reçu de Dieu avec reconnaissance, sachant que tout vient de lui et qu'il fait en sorte que nous ne sachions rien de ce qui vient après. Cela nous pose une sérieuse limite. Certains disent que si l'homme ne connaissait que des bonheurs, il ne serait jamais préparé à la mort. Et ça me fait penser, c'est un peu ce qu'on retrouve chez les hyper riches de ce monde. Outre le fait qu'ils vivent très bien, peut-être pas toujours si heureux que cela, mais ils se préoccupent surtout de leur santé, de leur corps et de la prolongation de la vie, une sorte de folie de la vie éternelle sur terre, et investissent aussi dans la recherche scientifique dans ce sens. Et la troisième section, se garder d'une fausse piété et de la propre justice. Lisons verset 15, « J'ai tout vu pendant ma vie sans consistance. Injuste mourir du fait de sa justice et un méchant prolonger son existence par sa méchanceté. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu ? Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas fou. Pourquoi mourrais-tu avant ton heure ? Il est bon de retenir le premier conseil sans négliger l'autre, car celui qui craint Dieu échappera à tout cela. La sagesse rendra le sage plus fort que 10 chefs présents dans une ville. » On parle de militaires, là. « Non, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pèche jamais. » Ah, la juste réalité. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles prononcées, ainsi tu n'entendras pas ton serviteur te maudire. En effet, tu le sais dans ton cœur, bien des fois, tu as toi-même maudit les autres. Tout cela, je l'ai fait passer à l'épreuve de la sagesse, et j'ai dit je serai sage. Mais la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est éloigné, ce qui est très profond, qui peut l'atteindre ? Les versets 15 à 22 doivent être compris comme une manière de vivre dans des conditions qui ne sont jamais idéales. Je vis depuis plusieurs années la responsabilité dans la commission permanente de notre association d'église. Et même là, rien n'est parfait. Rien n'est toujours aussi satisfaisant que ce qu'on l'on voudrait. Et soi-même, on n'est pas toujours sûr que c'est exactement ce que Dieu veut. Tout est perfectible dans une association d'église aussi. Mais j'apprends plus que jamais à saisir ces moments de consensus, d'accord les uns avec les autres, de relations fraternelles sincères lorsqu'elles se présentent, avec joie et reconnaissance. Certains diront que cela ne se voit pas toujours, mais rappelez-vous que même lorsque le visage est triste, le cœur peut être content. L'Ecclésiaste dit clairement ici d'apprendre à vouloir la perfection là où elle ne peut être obtenue. Tu n'es d'ailleurs toi-même pas parfait, dit le verset 20, et ne prends pas attention aux paroles désagréables que tu pourrais entendre à ton sujet. Tu as toi-même agi de la sorte à plusieurs reprises. C'est vers nous-mêmes que l'Ecclésiaste nous renvoie. Et je dirais, tu le sais, dans ton cœur. Je m'attarde sur le verset 18. parce qu'il fait écho au pharisianisme, comme en Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la nette et du cumin, et vous avez laissé de côté les charges plus lourdes de la loi, le jugement, la miséricorde et la fidélité. Voilà les choses qu'il fallait faire, et ne pas laisser de côté les autres. C'est bien le sens de cet équilibre qui se doit d'être mis en pratique, tout en reconnaissant son incapacité, malgré les dispositions de son cœur, à vivre pleinement la sagesse de Dieu, ni à tout découvrir de son plan divin. L'Ecclésiaste n'a pas tout découvert. Alors on a l'impression que c'est une justice moyenne qui est une attitude moyenne très relative où l'on n'est pas très exigeant. Il est évident qu'il s'agit ici de l'incapacité dans un monde perdu d'atteindre la perfection. Il s'agit de relations humaines. Et l'Ecclésiaste est réaliste. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire « Bravo, cher maçon, tu as construit un mur tout de travers et tu as mis la porte là où devait être placée la fenêtre ». Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Ni au médecin qui coupe la mauvaise jambe. Les derniers versets montrent son constat triste au sujet de la pureté. Ces versets se doivent être pris dans leur contexte et en rapport avec la pente savonneuse sur laquelle l'Ecclésiaste s'est embarqué dans sa vie. Jésus, et je fais ce préalable, et l'Évangile ont donc radicalement changé la vision de la femme. Cependant, l'Ecclésiaste reconnaît la perfection de la création initiale de Dieu et la chute. Et je lis ces versets qui peuvent nous paraître choquants aujourd'hui. « J'ai appliqué mon cœur à connaître, à explorer et à rechercher la sagesse et la raison des choses. » À connaître la stupidité de la méchanceté et la folie de la sottise. Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des chaînes. Celui qui est agréable à Dieu lui échappera, mais le pécheur sera capturé par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en comprendre la raison. Et voici ce que je cherche encore sans l'avoir trouvé. J'ai trouvé un homme digne de ce nom sur 1000, mais je n'ai pas trouvé de femme parmi eux. Examine seulement ce que j'ai trouvé. Dieu a fait les êtres humains droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de détours. Perfection de Dieu et chute. Chute de l'Ecclésiaste pendant une longue période de sa vie, et puis une vision de la femme. Qui n'est pas la vision de la femme de l'Évangile. Soyons-en bien conscients. Et puis en Deutéronome 30, les versets 11 à 14. Car ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est pas quelque chose de trop élevé pour toi, ni de trop éloigné. Il n'est pas dans les cieux pour que l'on dise qui montera pour nous aux cieux et l'ira prendre pour nous le faire entendre. Afin que nous l'accomplissions. Et il n'est pas au-delà de la mer pour que l'on dise qui ira pour nous de l'autre côté de la mer et ira le chercher pour nous le faire entendre. Afin que nous l'accomplissions. Car la parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu l'accomplisses. Ne prenons pas de faux prétextes. Et en conclusion, je lirai dans Jacques 3, les versets 13 à 18. Sagesse et mauvais désir. Lequel parmi vous est sage et intelligent ? Qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Puissions-nous être de cela. Amen.